Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no. E va bene, lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Buongiorno, Michelino.
Ça cavale de tous les côtés.
Ah
là.
Oui, là, ce
on
matin,
aime ça,
c'est...
Mais
wow.
Bon, c'est stressant parce ouais. que les invités arrivent, il voilà. faut les installer, des chaises,
machin,
un petit café, et... un petit quelque chose, voilà.
Voilà, voilà.
Bon, ben,
c'est direct.
C'est direct, c'est,
voilà.
mais on aime ça, on aime ça. On salue Raphaël depuis 8h ce
ouais.
matin avec ses...
Canzoni di una volta.
Un po' stranissimo. Moi, j'essaie toujours de les décoder, après je viens ici.
Non ti fidare mai di ciò che vedi. Anche il sale somiglia allo zucchero.
Ah d'accord, le sel ressemble au sucre.
Ben voilà. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Des fois, c'est tu tombes d'ailleurs.
Tu penses d'avoir quelque chose de doux devant toi, mais c'est très amer. Hein.
Alors, bonjour les auditeurs, amis de Cappuccino. Aujourd'hui, on vous propose une émission canon avec, dans quelques minutes, au téléphone, si tout fonctionne, Nicolas Piovani qui nous présentera son concert de demain à l'occasion du jumelage Paris-Rome. Et ensuite, nous avons la chance pour la première fois de recevoir le directeur de l'Institut italien de culture, Antonio Galbi, ainsi que Francesco Lisetto, son aide. Mais avant, le grain de la voix nous est expliqué et compté par notre ami Stéphane Floccari.
Le grain de la voix. Les minéraux et les végétaux n'en ont pas. Les objets que nous fabriquons peuvent en simuler l'existence, mais de façon illusoire et par procuration. Les animaux, nos cousins, nos frères, nos meilleurs amis, quand nous ne les voyons plus comme des menaces, ni des ennemis, ni des proies, n'en ont pas non plus. Pas même les grands singes, pourtant si proches de nous génétiquement, mais qui ne disposent pas d'un larynx ni d'un pharynx comparable au nôtre pour produire des sons susceptibles de résonner en eux, depuis eux, jusqu'à nous. Pas même la pie, qui répète n'importe quoi et n'importe comment, ce qu'elle perçoit sans le comprendre et sans parler en son nom propre ni à propos. La voix est tout autant que l'outil, la foi ou l'idée, ce qui fait de nous des êtres capables, non seulement de prendre la parole pour transmettre une information à propos de ce qui existe ou de ce qui peut exister, mais aussi et surtout d'exprimer ce que nous et personne d'autre, ressentons, éprouvons, considérons, manifestons, laissons transparaître. Quelque part entre mon corps et mon esprit, ma voix est ce qui me singularise, bien plus que mon nom, mon apparence physique, ma condition sociale ou mes goûts personnels. Mais pas plus que je n'ai un corps, puisque je suis mon corps, tel corps, que je ne puis échanger ni quitter pour aucun autre. Je n'ai pas à proprement parler une voix, au sens où je disposerais d'une faculté ou d'un instrument dissociable de ce que je suis. Je suis ma voix. Je suis cette voix, celle qui vous parle à présent, celle qui te parle, celle qui me parle aussi parfois, celle que j'entends quand je repense à un être aimé. Sous ce rapport, la voix, mais en présence tout autrement que l'image, à la façon des spectres et des fantômes présents et absents. Je puis certes me remémorer, de façon très vivace, des souvenirs à la vue d'une photographie, d'un être cher ou d'un lieu aimé, mais rien n'est plus puissant que la mise en présence d'un être par l'écoute de sa voix. On peut désormais enregistrer, conserver et transmettre ce grain unique, absolument singulier de la voix d'un être humain, qui vient du corps sans se confondre avec lui. Cette chose mystérieuse que l'esprit ne peut rendre ni imiter à l'écrit, comme l'a très bien saisi Roland Barthes. Sauf peut-être, dans le cas béni et rarissime, des plus grands stylistes, S-langues, que sont les écrivains et les poètes, qui passent leur vie à se taire dans des lieux silencieux, pour livrer à leurs semblables le son étrange que font les hommes et le monde quand ils se rencontrent. On peut reproduire une voix, on peut même l'imiter, mais on ne peut pas l'inventer. car de toutes les créations croisées, hybrides, inextricables de la nature et de la société, la voix est le plus étrange mystère de notre identité, qui se tisse de ces choses fragiles et ineffaçables que sont le visage et le nom, mais aussi et surtout le son et l'empreinte auditive d'un être que personne ne remplacera jamais dans sa capacité à dire, à laisser se dire quelque chose à travers lui quand il parle, murmure, chante, crie, hurle ou dialogue. Quant à ceux qui sont sans voix, par la force naturelle des choses ou par la violence aveugle et arbitraire des hommes, rien ne nous interdit d'entendre ce qu'ils ont à nous dire ni de leur prêter notre voix si besoin est. Réduit au silence ou choisissant volontairement de s'y soumettre, aucun homme ne cesse jamais d'habiter le monde tant qu'une voix sourd de son être.
Si vous voulez nous joindre, il faut appeler le 06 95 66 31 59. 06 95 66 31 59. Et alors, on n'oublie pas une semaine très importante, puisque vendredi, ça sera le démarrage des Jeux Olympiques d'hiver en Italie, Milano-Cortina. Ça démarre le vendredi 6 février et donc ça va jusqu'au dimanche 22 février. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade de San Siro à 20h. 196 athlètes italiens participent à ces Jeux. L'objectif de l'Italie est 20 médailles, dont 7 d'or. Bon, on espère que ça va bien marcher. Donc, vous allez voir des superbes images à partir de vendredi. On en parlera un peu plus longuement la semaine prochaine. Et là, on va faire un hommage à Tony Dallara qui est parti rejoindre Ornella Vanoni et on lui rend un hommage avec sa chanson Romantica.
Sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella, bambina mia. Sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Sei romantica, amarti un po' di vivere, nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole, che cercano lassù un po' di sole, come fai tu? Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me. Ed io che accanto sono ritornato a vivere, a te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei, tu sei la musica. Miei, perché romanti.
Est-ce que Nicola Piovani est romantica sicuramente en direct de Rome? Buongiorno.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour, merci de répondre à quelques questions. On est très content de que vous soyez à l'antenne avec nous. On avait fait une émission spéciale Nicola Piovani il y a quelques mois déjà et on est content parce que vous revenez à Paris demain pour un concert exceptionnel. Alors nous avons aussi M. Antonio Galbi qui est avec nous, qui est le directeur de l'Institut culturel italien.
Bonjour, bonjour.
Voilà, donc on va pouvoir
bonjour à tout le monde.
Discuter un petit peu.
Bonjour. Donc,
demain, c'est un jumelage très important qui a déjà commencé. Il va y avoir plein d'événements dans cette année 2026. On en parlera avec le directeur, M. Antonio Galbi. Mais demain, vous êtes donc dans la grande salle, le Châtelet, c'est un peu mythique, pour les 70 ans du jumelage Paris-Rome. Et pourquoi avoir dit « Ok, j'y vais ».
Pourquoi ? Oui. Parce que c'est toujours une joie de jouer à Paris. Et toutes les fois que j'ai joué à Paris, j'étais très content. À la fin, j'ai aimé beaucoup le public. Et alors, je suis très content de l'occasion.
Ben, écoutez, nous aussi, on est très contents. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous allez proposer dans ce concert exceptionnel demain ?
Un petit concert. Nous sommes quatre musiciens. Et on va jouer des différentes musiques que j'écris à partir de beaucoup de temps arrière. La grande part du cinéma, mais aussi des musiques que j'écris pour le théâtre et hors du cinéma. Je parle avec le public avant de jouer les morceaux. C'est une formule qu'on a essayé la première fois au Festival de Cannes. Jean-Louis Jacob m'avait invité à jouer mes musiques au piano et en parler avec le public. J'ai vu que la formule c'était très bonne et alors je l'ai repris pour un concert en Italie et aussi hors d'Italie dans plusieurs parts du monde.
Alors ça sera un concert exceptionnel avec énormément beaucoup de personnalités évidemment par rapport. Il y a eu déjà un événement à la mairie de Paris pour les 70 ans avec le maire de Rome et le maire de Paris. Est-ce que vos liens avec la France sont quand même importants puisque vous parlez bien le français puisqu'on fait cette interview en français? Quels sont vos rapports avec la France?
Je parle français, mon français c'est désormais bien rouillé parce que
ça fait
beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps que je ne travaille. La dernière fois important, je me souviens des musicals qu'on a fait au théâtre de Chailly. Au théâtre de c'était Concha Bonita. Trocadero, le théâtre de Trocadero, le grand théâtre de Trocadero, qu'on a fait un bon succès avec le public. Et dans l'occasion, j'ai fait deux concerts en ce théâtre, desquels j'ai un très, très, très bon souvenir. Et alors, j'espère, les mots que j'essayerai de dire en français, de parler avec le public en français, les petites choses s'appellent notes à marge. Ce sont des petites notes qu'on fait à marge quand on lit un livre avec un crayon. Ils vont aider à entrer dans la musique et un peu mieux aider avec avant. Mais ce ne sont pas des paroles importantes, exhaustives. Non, ce sont des critiques, ce sont des notations, des petites souvenirs que j'ai à propos des morceaux de musique.
Alors, nous avons le directeur de l'Institut culturel italien qui voudrait aussi vous poser une question.
Nicola Piovani a gagné le prix Oscar pour La vie est belle de Roberto Bellini. Et c'est un compositeur, un musicien très aimé à Rome et en Italie. Vous savez que nous avons deux compositeurs de musique pour le film, très importants pour nous, pour l'Italie, mais surtout pour tout le monde, et sont Ennio Morricone et Nicola Piovani. Nous avons choisi d'inviter Nicola au début de la programmation pour le jumelage et la fermeture en décembre. Nous avons programmé la projection de Ennio, un documentaire, un film documentaire di Giuseppe Tornatore, Prix Oscar pour Cinéma Paradiso, et qui viendra à présenter ce documentaire très important. Et je connais Nicolas il y a beaucoup de temps parce que j'ai dirigé des théâtres, et Nicolas est toujours là parce qu'il a créé, a composé beaucoup de musiques pour le spectacle. Et je l'ai invité aussi dans l'été 2020, pendant la pandémie, à Syracuse, dans le théâtre grec ancien, et il a porté une composition très intéressante, L'Isola della Luce, L'Île della Lumière, avec la cantante Tosca et un acteur, Massimo Polizio, et une orchestre. Donc, c'est parfait qu'il commence. Oui. Et vendredi soir, à la fin du concert à l'Hôtel des Villes, le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a donné une surprise. Il a joué un morceau à la guitare, parce qu'il joue la guitare aussi. Donc, nous avons commencé avec la musique.
Merci, monsieur Nicolas Piovani, d'avoir répondu à quelques questions. Et donc, on vous attend avec grande impatience demain donc pour ce concert spécial.
Nicolas a créé de la musique pour des films français. Nicolas, dis quelque chose sur le film français que tu as.
Je vais travailler en France très bien avec des metteurs en scène très sympas. Maintenant, je ne veux pas oublier quelqu'un, mais Daniel Thompson, je pense. À peu près 15 ou 20 films en France.
Merci à vous. Et puis, oui. On va écouter justement un morceau que vous avez écrit il y a déjà quelques années. C'est Good Morning Babylon. Il y a une musique très enlevée et très sympathique. Merci à vous et on se retrouve demain pour votre concert exceptionnel.
Merci. À demain. À demain soir.
Grazie. Ciao, Nicolas.
À demain soir.
Nous sommes avec M. Antonio Calbi, qui est donc le directeur de l'Institut culturel italien, hein, qui est installé dans un prestigieux hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, au cœur du Faubourg Saint-Germain. Alors, merci d'être là, parce que c'est la première fois qu'on reçoit le directeur de l'Institut culturel italien. Donc, et merci à vous.
Merci à vous pour cette invitation. J'aime beaucoup la radio. J'ai fait la conduction des émissions en Italie. Vive la radio!
Vive la radio, merci à vous. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot juste sur un peu l'historique pour que les gens connaissent un petit peu mieux l'Institut culturel italien?
Oui, donc, le ministère des Affaires étrangères a un réseau de 90 instituts culturels d'Italie dans les capitales de tout le monde. Et 90 sont beaucoup. Et 8 sont dirigés par personnalités de clair femme qui sont sélectionnées par le ministère. Et donc, je suis arrivé dans le septembre 2023. Naturellement, la nation qui aime plus la culture et l'art italienne, l'histoire italienne, c'est la France. Donc, c'est un des instituts plus. Vous savez qu'entre la France et l'Italie, il y a des rapports, des relations très proches. Nous sommes cousines et frères, aux sœurs, et nous sommes en train de célébrer le jumelage exclusif entre Rome et Paris, sont des villes sœurs, et qui a été signé cet jumelage le 30 janvier 1956 entre les deux traités qui ont créé l'Union européenne, le traité de Paris et le traité de Rome. Et je pense que c'est une relation, un jumelage très important au niveau politique, au niveau culturel, au niveau de stratégie pour l'Europe. Et sont des villes qui sont très, 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 ont des différences et des similitudes. Rome et Paris ont le fleuve, ont l'histoire, la beauté, sont des capitales. La ville lumière et la ville éternelle. Je pense que c'est très important de continuer à nourrir cette relation.
Alors, vous avez un parcours un peu atypique parce qu'en fait, vous ne venez pas trop de la diplomatie, mais plutôt du théâtre. Est-ce que c'est un avantage pour l'Institut?
Oui, mais j'aime la culture, toute la culture. J'ai fait la 2025, j'ai fait le... J'accomplis 40 années de travail. J'ai commencé à Venise, à la Biennale de Venise, 1985. Et nous avons accueilli un spectacle de Georges Lavelli, de Coppi. Et je me rappelle de l'autre chose. Je connais très bien, le théâtre français parce que j'ai travaillé dans une maison de livres, Ubu Libri, le père Ubu, créé à Milan et où nous avons traduit beaucoup de textes d'auteurs, de dramaturgues français. Par exemple, Coppi, aussi Bernard Maria Coltese. J'ai connu Patrice Chéreau, j'ai connu Georges Lav, tous les grands metteurs en scène qui sont venus en Italie. Et je rappelle que le fondateur du théâtre de l'Europe, du théâtre Odéon, était Giorgio Strehler, qui est le plus important metteur en scène italien du XXe siècle. Il a créé avec Paolo Grassi le premier théâtre public italien, le Piccolo Théâtre de Milan, 1947. La France a commencé beaucoup avant. Et il a eu cette idée, c'était à mettre en scène un homme socialiste. Il a présenté cette idée à Jacques Lang. Et Jacques Lang a parlé avec Mitterrand et ont créé le Théâtre de l'Europe qu'il a dirigé la première année. Donc, vous voyez que les rapports sont très
c'est
proches.
Entre la France et l'Italie.
Oui. Et quand nous avons fait le 60e jumelage entre Rome et Paris, au temps, j'ai dirigé le Théâtre argentin. Que c'est un théâtre de 1731, c'est un théâtre à loge italienne, beaucoup plus ancienne de l'opéra naturellement. Le modèle de théâtre à loge italienne, c'est le modèle pour les grands théâtres de l'Europe et du monde entier aussi. Je pense à la colonne de Buenos Aires, etc. Et il y a, je voudrais dire agli ascoltatori, qu'il y a un tableau fantastique au Louvre. C'est un tableau très grand d'un peintre Panini qui fait le portrait d'une soirée spéciale, d'un événement que je me rappelle qu'elle Abba a donné pour rendre honneur à le Delphine de France et, dans le XVIIIe siècle. Donc, le Louvre a un exemple de romanité de ce siècle-là. Et quand j'ai dirigé, dans 2016, nous avons donné la Lupa Capitolina, que c'est la Lupa Capitolina, c'est le symbole de Rome, à Peter Brook, par exemple. Et il lui a présenté pour la dernière fois en Italie Butterfield, un morceau de célèbre Mahabharata. Donc, je sens beaucoup cette relation.
La France et l'Italie, oui. C'est très lié. Alors, on va faire une pause musicale avec des chanteuses que vous aimez, et puis des morceaux aussi, avec par exemple Ornella Vanoni.
Ah oui, ouais. Elle est morte il y a quelques mois, et très important pour nous, mais je pense aussi pour l'Italie. Elle était fiancée avec Giorgio Strehler, et je l'aime beaucoup parce qu'elle est jamais resté ferme dans sa place. Il a continué à rechercher, à continuer à expérimenter et encore à chanter avec des jeunes oui, auteurs. Fin, c'est incroyable ça, ouais. C'est formidable.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors nous sommes avec monsieur Antonio Galbi qui donc nous parle de l'Institut culturel italien. Et quelles sont les missions de l'Institut culturel italien? Parce que les gens ne savent pas forcément qu'il n'y a pas que du divertissement. il y a aussi de l'enseignement.
Oui, alors la mission, c'est de faire la promotion, de faire connaître la langue et la culture italienne. Ça veut dire l'histoire, la tradition, mais aussi l'art du présent, la contemporanéité. Ça, c'est la ligne éditoriale que j'ai choisie. Donc, travailler sur la mémoire. Par exemple, c'est est mort Giorgio Armani. Nous avons mis dans la programmation un documentaire su Giorgio Armani créé par Martin Scorsese. C'est mort Valentino et donc nous avons mis un programme, un hommage à lui. Et nous parlons de Caravaggio, Artemisia Gentileschi ou de Guido Reni ou de Raffaello à l'occasion d'exposition dans toute la France. Par exemple, Guido Reni à Orléans, les dessins de Raffaello à Lille. Et j'aime bien de créer des relations entre les institutions culturelles de Paris et de la France et nous. Je donne un autre exemple. Par exemple, quand le Petit Palais a fait l'exposition qui est jamais beaucoup le Paris de la modernité, nous avons porté à l'Hôtel des Galifées une sculpture très importante pour la modernité italienne et européenne, que c'est forme unique dans la continuité de l'espace di Umberto Boccioni, parce que le futurisme est né à Paris. Marinetti a publié le manifeste du futurisme sur la première page de Figaro 1909. Et donc, nous avons créé cette connexion. Mais aussi de faire découvrir à les Parisiennes. Nous avons 80% de spectateurs qui suivent notre programmation sont des Parisiens, sont des Français. Donc, nous travaillons pour les Français, pour faire découvrir des novités, des auteurs jeunes, par exemple. Et donc, le théâtre, la musique, le documentaire, le cinéma, nous faisons 4 expositions chaque année importantes. Et chaque 3-4 mois, il y a aussi des œuvres d'honneur. Dans ces moments, nous avons Anne Morandi, une nature morte de Morandi avec les bouteilles typiques et Anne Fontana avec la blessure sous la toile. Et sont les deux auteurs qui sont dans la Galerie d'Art Moderne de Paris, par exemple. Au vendredi, nous avons découvert avec le maire de Rome et la maire Hidalgo de Paris 3 œuvres d'honneur que nous avons créées pour cette occasion. La tête sculptée de Napoléon II à l'état de 10 mois. C'est très petite, sculptée d'un élève de Antonio Canova, s'appelle Giacomo Spalla. Délicieuse. Et nous sommes à 50 rue de Varennes et la tombe de Napoléon, c'est à l'autre côté au début, donc à les Invalides. Et donc, le petit enfant regarde son père. Et c'est une histoire incroyable parce que vous savez que le roi de Rome a vécu peu en Italie parce que sa mère, Asburgo, l'a porté à Vienne où il est mort à l'âge de 20 ans. Et son corps est arrivé à Paris dans 1940. Avec un accord entre Pétain et Hitler. Donc, et nous avons accueilli aussi un tableau de Caspar van Wittel, qui est le père de Luigi van Vitelli, qui a projeté la Notre Versailles, qui est la Reggia di Caserta, à côté de Naples. Et ce tableau, c'est un portrait fantastique. Du Colosseo. Donc, dans l'été, nous avons invité Paolo Conte à présenter pour la première fois en Italie 140 tableaux et dessins. Et vous savez que Paolo Conte était jamais à Paris parce que nous avons une tradition de chanteurs et chanteuses presque très similaire à la France. Nous aimons tous les deux les chanteurs, les chansons, affiné, très original. Donc ça, c'est la programmation pour dans les enfants, à les personnes plus âgées. Et nous avons aussi des cours pour apprendre l'italienne à chaque niveau. Nous avons 1000 étudiants. J'invite les ascoltatori, qui est à la maison, qui t'écoute, à venir chez nous, parce que l'hôtel de Galifée, c'est un hôtel particulier du 17e siècle, fantastique, avec des colonnes, des capitelles dorées, des marmes, des miroirs. Et là était la première chaise du ministère des Affaires étrangères de la République française après la Révolution. Et là qui a travaillé M. Talleyrand, et je travaille dans le même cabinet, très petite comme cette chambre, mais j'ai la porte secrète, parce que M. Talleyrand est celui qui a créé, a codifié à moi ponte le camélontisme de la politique, parce qu'il est resté au pouvoir pour beaucoup d'années. Et donc, toutes les activités sont gratuites. Ça, c'est notre travail. C'est un travail fantastique.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando, meglio star qui seduto e guardare il cielo davanti a me.
Messi qua nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messi qua nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no. Queste son situazioni di contrabbando. A me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento stracce anche l'armonica, che voglia di piangere.
Intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste son situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più.
Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere. Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere.
Alors justement aussi, comment on fait quand on est directeur d'un institut pour prendre des événements qui des fois sont politisés? Comment on fait pour Est-ce que l'Institut, la politique,
alors,
comment on
je
fait
pense, que... Non, je pense que la culture n'a pas couleur, la culture n'a pas politique. Je ne choisis pas d'événements idéologiques. Je pense que la culture doit être neutre, absolument. Chaque création, c'est vrai, c'est politique. Et parce que je pense que
il y a un message chaque... hein,
oui,
quand même,
oui, justement. Oui. Bah, nous avons, pour exemple, nous avons pour la journée de la mémoire, nous avons toujours présenté quelque chose. Cette année, nous avons donné la lumière à une histoire pas connue. Le camp de concentration de sterminio de Ravensbrück, le camp destiné à les femmes. Et les spectateurs sont restés comme ça parce que aussi la France n'a pas connu cette histoire. Alors, c'est choix, c'est politique? Non, c'est l'histoire. Le devoir de la mémoire n'est pas politique. Nous avons présenté chez nous deux films documentaires italiens sur la guerre en Ukraine, qui nous l'avons programmé encore pour le 19 de février, pour le 4e anniversaire de la guerre. C'est politique? Non. C'est la témoignance, l'engagement de la culture d'ouvrir les yeux, de donner la lumière sur des choses. Aussi pour le génocide à Gaza, nous avons présenté un film d'un auteur italien, Loris Lai, qui raconte l'amitié entre deux enfants, un enfant palestinien, arabe, et un enfant juif, à l'époque, en 2003, pas maintenant. Donc, c'est politique? Non, c'est le témoignage de la culture. Les artistes vivent toujours dans la contemporanéité. L'art, et c'est la mission de l'art de aider nous à comprendre mieux qu'est-ce qui passe dans les jours. Donc, ça, c'est j'avais, dans ma vie, il y a 40 ans que je travaille de la culture, j'ai jamais accepté la censure et j'ai fait une programmation pour tous. Pour tous, donc inclusive et qui doit donner d'émotion, doit donner des stimules pour réfléchir, pour la pensée. Le cœur et la pensée sont toujours liés. Ça, c'est mon comme je dis...
motif.
Oui. Hein. Oui. Ça, c'est... Et quand nous faisons la programmation, je me pose la question. Cet sujet peut intéresser Paris? Oui ou non? Et c'est oui, comme nous devons faire, comme nous devons communiquer. Ça, c'est... Et je partage avec mon équipe, une équipe extraordinaire qui ont compris cette façon de travailler. Et nous travaillons ensemble et nous avons beaucoup de succès. Oui.
Une pause musicale avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est Dario Fo, aussi. Et là, c'est le générique de son émission des années 60, Mais chi ce lo fa fare?
Ascolto popolo di naviganti, eroi poeti santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a stonare.
E chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare? D'essere contenti e di cantare? Perché? Brava! E chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare? D'essere contenti e di cantare?
Stop! Zitti! Attenti! Non tutti però potranno cantare! In prima fila cantino i ministri e i sottosegretari, in controcanto seguono arcivescovi con i generali, ed in falsetto le toghe d'ermellino ed i banchieri, molto suonati.
persuadente gorgheggi, gorgheggi l'inquirente. Ah, le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio-basso. E gli operai e gli avventizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati potranno solo fare come contrabbasso.
Ma va, e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa far di stare zitti ad ascoltare? Perché? Ma va, e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa far di stare zitti e non cantare?
Voi, zitti, attenti, un, due, gli altri cantare!
Noi siamo tutti sulla stessa barca che affonda lentamente, e mentre quelli cantano sereni a voi tocca remare. Giù con la schiena, forza a remare, che noi vi diamo il tempo, e chi ha tempo non va, si prepara ad emigrare.
Ma chi ha detto che triste ser costretto a fare le valigie ed emigrare, raminghi per campare dal Belgio fino in Svizzera? Basta che le valigie siano colme di valute, di contanti. Ci vuole poco, pochissimo per essere contanti.
Oh, ma va, e chi ce lo fa fare?
Senti,
e chi
remare,
ce lo fa fare di stare zitti e
uno,
di remare?
Due, giù con la schiena, una,
ma
due,
va,
uno,
e
due,
chi ce lo
uno,
fa fare?
Senti,
e chi ce lo fa fare?
Alors, il y a une chose qui est très sympa, moi, je trouve, c'est que je suis abonné depuis longtemps, c'est la lettre d'information qu'on reçoit toutes les semaines, et ça donne le programme, et bien sûr, c'est gratuit. Moi, je pense que les auditeurs, il faut absolument qu'ils s'inscrivent, parce que cette lettre d'information est très, très pratique pour savoir ce qui se passe en temps réel, pratiquement, à l'Institut culturel italien. Alors, on sait que ceux qui vont aussi, des fois, à l'Institut culturel italien, sont des personnes qui peut-être sont en retraite, qui ont un peu plus de disponibilité. Et justement, comment vous pensez pour attirer les jeunes générations qui maintenant sont beaucoup avec tout ce qui est numérique, etc. Comment on peut attirer ces nouvelles générations?
Oui, ben, quelquefois, nous avons programmé des musiciens, des chanteurs très jeunes, par exemple Giorgio Poi, qui s'est très connu en France, il a joué vendredi soir à l'Hôtel des Villes, ou Ariete, une chanteuse de Rome qui a 23 ans. Et oui, surtout dans l'été, nous avons un jardin que nous avons attrissé pour avec un plateau pour présenter des spectacles plus contemporains. Mais je pense que nous devons faire un plus. Le film, oui, aussi. Mais nous avons tout l'âge. Hein. Nous avons les enfants, nous avons des cours pour le théâtre dans notre bibliothèque, jusqu'à des personnes qui ont 80, 90. Donc, ce n'est pas vrai que surtout les personnes à la retraite. Et nous avons fait une...
Dans l'après-midi,
oui,
ce qui est
oui,
un peu
non,
logique
nous
aussi.
Avons, nous avons noté, nous avons présenté des choses en documentaire sur... un photographe italien il y a 90, Ferdinando Scianna, qui était ami de Henri Cartier-Bresson, c'est un formidable de Palermo, et nous l'avons programmé à 4 heures dans l'après-midi, et nous avons dit aucune personne arrivera jamais, et aussi sont venues 150 personnes. Donc, et la chose qui m'a touché beaucoup est que les Français viennent après l'événement à me dire: Monsieur, nous venons sans savoir qu'est-ce que nous venons voir ou écouter, parce que nous avons confiance dans la programmation, et merci parce que la programmation c'est très originale et très haute. Donc mais cette réflexion sur le gène, Francesco, nous devons faire de plus. Je demande à mes collègues qui sont très jeunes. Francesco si. Boscolo, c'est notre compétence en digital et social. Et je demande de donner des idées. Mais elle travaille beaucoup et donc non peut
non, mais réfléchir. La question n'était pas une question piège parce qu'on a le même problème nous aussi. À la radio, puisqu'on a toujours aussi des soucis pour essayer d'intéresser les jeunes générations françaises-italiennes. C'est un peu le problème de beaucoup d'associations également.
Oui. Les social networks sont importants, mais je pense que la relation vivante entre les personnes que doit regarder, c'est fondamental dans cette époque numérique. Donc, c'est précieux le travail que font le théâtre, l'institut culturel de tout le monde, parce que nous devons penser que Paris, c'est la plus importante capitale de la culture. Ça va dire maintenant que New York, avec Trump, c'est la débâcle, et Londres est sorti par la Brexit. Je pense que Rome et Paris n'a jamais perdu le rôle de capitale du monde. L'offre culturelle dans cette ville, c'est extraordinaire, c'est un modèle pour tout le monde.
Alors, une question un peu clin d'œil. Selon vous, quelle est la plus grande idée reçue des Français sur la culture italienne? Est-ce que c'est encore la Dolce Vita, Fellini?
Non. Alors, après des années et quelques mois de la part d'un directeur de l'Institut culturel, j'ai compris que toute la culture italienne est aimée. D'accord, nous avons le sold out, les personnes qui quand nous avons fait Caravage avec la directrice de la Galleria Borghese de Rome et un historien français, donc surtout la peinture, c'est très aimé. Nous avons fait des conférences, Artemisia Gentileschi, etc. Et toujours aimé. Et ça, c'est ma touche beaucoup et m'intéresse parce que ça veut dire que la France reconnaît que l'art et la critique italienne, c'est à l'origine de la culture française. Et ça, oui, le cinéma aussi. Mais je pense que le regard, oui, j'aimerais bien que le théâtre italien doit être plus présent. Donc nous
c'est
avons
plus compliqué.
Oui, mais avant nous avons des grands. Alors Emma Dante est très aimée ici. Emma Dante a fait la Comédie Française, l'a invité à diriger pour la première fois dans sa carrière une équipe, une compagnie, pas d'acteurs italiennes, siciliennes, mais d'acteurs de la Comédie Française. Et j'ai vu les Femmes Savantes et a très bien marché. Donc, voyez, au Pippo Del Bono, c'est un des artistes, maintenant Silvia Gribaudo, qui c'est une danseuse. Il y a un regard très particulier et voir la création italienne. Et je pense que c'est une amitié à chaque niveau. L'Italie, c'est le pays qui a dans la propre DNA, dans la propre génétique, la créativité. Mais donc, la France, qu'est-ce qu'il a? A le système. La France a l'argent, la politique culturelle inclusive partout. Alors, je regarde, toutes les expositions sont pleines de personnes, le cinéma, le théâtre, le concert. En Italie, la culture est encore pour une partie très petite de la société. Donc, ça, c'est pour un italien, c'est une chose que nous n'avons pas et donc c'est un modèle. Mais il y a des choses que la France n'a pas encore.
Alors, on peut peut-être penser aussi une chose complètement idiote, ce que je vais te dire, mais pour les jeunes, est-ce que s'il y avait du sport à l'Institut culturel italien, il calcio et la Formule 1, etc., est-ce que ça, ça pourrait faire partie d'un Institut culturel italien ? Alors, présenter un champion.
C'est une question très intéressante. Oui, alors nous devons voir un autre bâtiment. Je pense que la culture italienne doit avoir un petit Saint Pompidou. Parce que la culture... oui, mais c'est bien sûr. Je regarde la maison de la culture du Japon. Et hier, j'ai rencontré le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. J'ai dit, monsieur, l'hôtel qu'elle fait, c'est merveilleuse, mais c'est trop petite parce que le français veut, désire chaque jour de découvrir la culture italienne. Nous avons un patrimoine énorme de faire encore découvrir. Le sport, oui, nous avons créé un programme très riche pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris et nous avons présenté des films, des courts-métrages, des documentaires, une exposition qui a raconté dans le Disco Bulle à aujourd'hui et dans notre jardin, nous avons présenter des spectacles très, très fantastiques, très énergiques, très puissants sur le sport, le football et des spectacles de danse aussi. Et là, le public était différent. Donc oui, c'est vrai. Je ne sais pas, nous pouvons faire un tour... Nous avons un jardin qui peut être pour
le aménager pour miniature.
Oui, oui.
Alors c'est bientôt la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs qui, peut-être ne connaissent pas encore pas bien l'Institut culturel italien ? Et peut-être deux mots aussi sur cette année 2026 qui commence.
Je voudrais dire que la culture, c'est un moyen de lier les personnes et de lier le peuple. Que la France et l'Italie ont encore beaucoup de choses à faire ensemble et donc sont des nations, des capitales au miroir. Donc, je vous invite à visiter, à venir chez nous parce que l'art et la culture italienne appartiennent et c'est une expérience à partager. Et dans cette époque de guerre, de violence, c'est très important. Je pense que la culture et la créativité, c'est un pont et nous devons parcourir cette parcours ensemble. Je pense que si chaque jour nous faisons quelque chose lié à l'art, nous pouvons être humaines plus humaines.
Merci à vous, Monsieur Antonio Galbi. Merci à vous. Et puis j'espère que vous reviendrez régulièrement pour nous parler de tous ces événements qui est très important pour les Italiens, les Franco-Italiens qui adorent la culture italienne. L'Institut culturel italien est aux 50 rues de Varennes, on le rappelle. Hein. C'est du côté de Saint-Germain-des-Prés, c'est métro rue du Bac.
Oui.
Merci à vous, merci à Francesco Lisette qui nous a permis.
Vive la France, vive l'Italie, vive Rome, vive Paris.
Oh, va, va, va. Ba 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 ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, comedy. Comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy, don giur, tadadam, tadadam, tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad la comédie de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va va, la la, va va, 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 va
ma cos'è? La luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you? Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui.
On est bien.
Ah, oui,
on a
c'est
pas
l'heure,
envie de partir, c'est... Enrico. On est bien. Voilà, on salue encore le directeur de l'Institut culturel italien. Et puis, on vous souhaite un bon dimanche. Plein de bonnes choses. Le téléphone aujourd'hui, malheureusement, il n'était pas branché sur le 01 40 24 29 29. Mais bon, ça sera la semaine prochaine. Enfin, à quelle heure?
8h, Michel.
À 8h. À 8h. D'accordéon avec Antaline.
Il a oublié son écharpe. Elle est avec nous.
Bah on lui donnera dans 30 ans quand il reviendra.
C'est bon. Allez, buona domenica et à domenica prossima.